Salut David, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bon, comme il est de coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es un petit peu?
Bonjour Laura, donc je m'appelle David Chapon. Qui je suis? Pas évident, puisque j'ai pas mal changé ces dernières années. J'ai mal travaillé pour changer qui j'étais. Mais on va dire que j'ai pas mal de temps dans l'énergie, dans un grand groupe qui s'appelle Schneider Electric. Je pense qu'on peut le citer. Il y a 3 ans et demi, j'ai quitté ce job pour d'une part lancer une petite marque de mode très durable qui fabrique des chaussures végétales qui s'appelle Willow, et d'autre part en parallèle écrire. Et je publie dans 2 jours, le 7 mai, donc mon premier roman qui s'appelle Éloge du cygne.
Alors, est-ce qu'on peut revenir à la période de Schneider?
Ouais.
Et tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a pris en fait, pourquoi t'as décidé finalement de changer de cap, parce que complètement virement de situation totale, pourquoi t'as commencé à t'intéresser à la mode éthique, et aussi surtout quel challenge t'as rencontré dès le début, parce que je pense que t'en as rencontré direct.
Pas mal des concours de circonstances, mais il est quand même à une volonté que j'avais depuis longtemps d'écrire et d'avoir un peu plus de temps pour le faire. Et quand j'étais à Schneider, c'était une entreprise et un job passionnant qui m'accaparait beaucoup de temps. Et au bout de 6-7 ans, quoi, se rapprochait les 30 ans, et je me disais, mais ça passe à une vitesse folle. Tu as toujours un peu écrit, tu as toujours voulu écrire plus sérieusement, vu la qualité de ce qui était proposé et de l'ambition que tu avais de vouloir proposer. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais jamais tout faire en même temps. Donc je me suis dit, je vais quitter Schneider pour écrire. Et en parallèle, parce que c'était vraiment un trop grand vide de se lancer d'un coup comme ça dans l'écriture à plein temps, je me suis dit, bah, je vais aussi lancer une marque. Donc, il se trouve que ça a été, parce qu'au début, je l'ai monté avec ma sœur, une marque de mode durable et éthique, donc Willow. Avec ce côté, bon, bah voilà, je vais passer d'un grand groupe à une petite structure où je serai un peu plus maître de mon temps. On va être sur un business model où on vend en ligne et on vend en direct, donc plus maîtrisé. J'espérais, je me disais, je pourrais faire les deux en même temps.
Ok, mais tu as négocié une rupture. Désolée de la question super perso, mais niveau financier, comment tu as fait? Parce que quand tu démissionnes, la plupart des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat se stressent en se disant financièrement, ça va être compliqué.
Moi, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle avec mon entreprise, voilà. Donc, ça te donne droit à des indemnités de chômage. Enfin, quand tu crées ton entreprise, Pôle emploi permet de te verser ces indemnités-là pendant le temps auquel tu as droit.
Ok.
En général, quand tu as travaillé 6-7 ans, enfin, comme moi, a priori, tu en as pour 24 mois.
Ok.
Donc, clairement, au début, parce qu'au début, tu investis dans ta marque, donc financièrement, tu investis du temps et ça te permet d'avoir clairement un confort pour démarrer, quoi.
Ouais.
J'ai traîné dans pas mal, comment dire, d'incubateurs, d'écosystèmes, d'entrepreneurs. Même si j'essaie de rester un peu éloigné de tout ça pour garder du temps pour écrire justement. Et j'étais assez individuel, on va dire, comparé au parcours idéal de l'entrepreneur qui doit s'entourer. Mais voilà, il disait effectivement, Pôle emploi, c'est là sur les débuts, c'est le premier business angel de beaucoup d'entrepreneurs. Et j'ai quitté Paris aussi où.
Ton appartement coûtait plus un bras et...
Voilà, l'appartement, le confort de vie. Quand tu quittes Paris, et voilà, avec moins d'argent, tu gagnes beaucoup plus sur ce plan-là, même si en social, tu peux perdre. Donc, bon, après, c'est un arbitrage à faire, mais voilà.
Ok, donc te voilà face à toi-même et avec de belles idées en tête, bon, avec ta sœur aussi, où tu voulais créer cette marque justement. Alors, bon, tu n'es pas sans savoir que je suis en train d'essayer de créer moi-même une marque éthique et je sais à quel point entre ce que tu souhaites vraiment, l'idéal et la réalité, bah, tu te confrontes à plein de... Moi, j'appellerais ça presque des déceptions, puisque en fait, quand au début, tu te dis, je vais faire un truc archi éco-friendly et tout, puis finalement, tu te rends compte que la réalité des choses, c'est pas évident. Est-ce que tu peux me dire, bah, par exemple, les deux plus gros challenges que tu as rencontrés?
Déjà, il faut être patient parce que ça se fait pas tout seul de lancer sa marque, même si on est sur quelque chose, une marque de mode où il y a peu de barrières à l'entrée. Beaucoup de gens peuvent créer une marque de mode. C'est assez accessible techniquement, donc voilà, c'est accessible, mais la grosse barrière, c'est qu'il faut trouver, il faut recréer cet écosystème dans lequel tu connais rien, donc le designer, l'atelier qui fabrique, les matières, etc. Créer son image de marque, son univers. Donc en fait, il faut prendre le temps. Et je dirais par rapport à ce challenge-là, parce qu'effectivement, ça peut sembler beaucoup de déception ou alors de compromis, on peut dire, mais effectivement, c'est quand tu te lances, c'est des compromis. et que trouver l'atelier, moi, ça me paraît la bonne première démarche à poser pour concevoir son produit et autour avoir l'univers de marque et tout ce qui va avec bien. Sachant qu'aujourd'hui, quand beaucoup de personnes qui se lancent dans la mode lancent des marques qu'on dit en direct, en ligne, avec la valeur de l'authenticité. Donc, c'est important quand même de partir d'un bon produit parce que ça, après... Donc, c'est-à-dire du réel, quoi, des ateliers. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la transparence. On pourra pas trop mettre un vernis si c'est luisant, si derrière, il y a quand même pas un réel qu'on connaît bien. Donc, voilà, la patience, et aller voir rapidement les ateliers, le terrain, que ce soit en France, à l'étranger, prendre des contacts, se déplacer pour voir comment ça se passe et travailler conjointement.
Ok, d'accord. Et donc, vous avez avancé, finalement, tu as lancé ta marque?
Oui. Tout à fait. Finalement, donc avec ma sœur, d'abord, on lance une marque autour de la maroquinerie vegan, c'est-à-dire sans produits animaux, fabriquée au Portugal. Donc, le projet, au départ, est commercialement plus porté par ma sœur. Ma sœur, en fait, se rend compte justement rapidement que c'est énormément de contraintes d'être entrepreneur et à son compte. On veut être... L'idée, c'est d'être son propre patron, mais en fait, les patrons, enfin, entre guillemets, c'est les clients, on va dire, c'est tes finances, c'est l'approvisionnement, etc. Donc, une fois que tu rentres dans le cycle, faut faire tourner tout ça. Et donc, c'est des nouvelles chaînes, entre guillemets, encore. Hein. On dit souvent la liberté, c'est de choisir ses chaînes. Et donc, ma sœur, ça ne lui a pas convenu. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est vrai que c'est un deuxième challenge, hein, savoir avec qui on part. On part dans un projet, que ce soit l'associé ou ensuite les partenaires, là, le fabricant, etc. Ma sœur s'est dit, non, moi, en fait, ça ne me va pas, je préfère arrêter. Donc, je dis, écoute, je vais continuer déjà pour solder un peu ce qu'on avait en stock. Et puis, en découvrant la mode, venant de Schneider Electric, où j'avais passé 7-8 ans sur des problématiques, justement, développement durable, économie d'énergie pour les clients, et c'était mon job, je m'étais rapidement rendu compte de l'envers du décor de la mode. Donc, beaucoup de sous-traitants, des approvisionnements mal maîtrisés, on ne connaît pas l'empreinte carbone, les cycles de vie des produits. Et rapidement, je m'étais dit que la chaussure, il y avait quelque chose à faire, notamment parce qu'il y avait beaucoup de plastique dans la chaussure, que c'était un bien usable. J'avais l'envie de lancer cette basket 100% végétale, biodégradable, faite en France. Et c'est ce que j'ai fait quand ma sœur est partie petit à petit. J'ai repositionné la marque sur de l'ultra durable. J'appelle ça de l'ultra durable. C'est fait en France. C'est fait qu'avec des matières végétales, pas de produits animaux, pas de produits synthétiques. C'est qualitatif, c'est réparable. Et là, par contre, j'ai fait la démarche qu'on ne recommande pas forcément. Je me suis dit, en fait, je ne vais pas faire de compromis. Donc, le prix se fera comme il se fera. Et donc, c'est un produit coûte relativement cher.
Comme tous les produits plutôt éthiquement responsables, quoi, finalement.
Voilà, mais moi, au début, je me disais, je vais faire le produit, parce que juste pour me dire, presque de manière expérimentale, que c'est possible, parce que je voyais quand même autour de moi, je voyais qu'on vendait que des chaussures qui étaient, en fait, malgré tout, en plastique, recyclé ou pas, ça restait du plastique, avec toutes les conséquences que ça a en termes de pollution, autre. Et donc je me suis dit, je vais juste faire quelque chose de petit mais avec le cœur. Et finalement, ça a pris beaucoup mieux que la maroquinerie. Ça paraissait comme ça plus sérieux et plus calqué sur d'autres marques.
Ok.
Ça a été repris par la presse et puis j'ai pu faire un lancement intéressant de ce produit-là et vraiment repositionner entièrement Willow là-dessus, là, il y a un an et demi, deux ans presque.
Trop bien. Et puis tu as eu tellement de retombées presse, c'était impressionnant. Donc.
Par contre, ce qui fait la différence, c'est le marketing, c'est l'image. C'est un, l'image, et deux, être audible. Et ça, c'est clairement un métier. Le web marketing, être audible, c'est clairement un métier, etc. Quand j'ai lancé Willow, la chaussure, la basket végétale, là, j'avais un produit totalement différenciant qui n'avait pas été fait, des petits ateliers. Donc là, clairement, tu prends un risque. Les petits ateliers, tu es dépendant d'eux. Hein. Tu n'as pas d'alternative. Hein. Tu es obligé d'être ami et totalement partenaire avec eux. C'est un projet totalement... main. Et quand j'ai lancé ça, je me suis vite rendu compte en mettant sur Ulule et Internet qu'en fait, tu mets ton truc, mais il n'y a personne qui va le voir. Enfin, il y a tes amis, quoi. C'est tout. Et ça met du temps à faire tes amis, le cercle 2, etc. Donc, Ulule, ça dure 3-4 semaines. C'est la course pour remplir ton objectif. Et là, la chance que j'ai eue, c'est effectivement la presse qui a...
Ah, c'est la presse, mais c'est vraiment tombé comme ça ou tu t'es entouré de quelqu'un qui t'a aidé à faire ta com'?
Bon, on m'a filé un coup de pouce, une consultante qui s'appelle Elodie Ladéfri, et que j'avais rencontrée via Ulule, justement. Ulule m'avait un peu coaché, mais, et j'avais fait le lien avec cette personne-là qui, effectivement, m'a donné un coup de pouce. Et c'était important, quoi, parce que derrière, ça donnait, un, de la visibilité, sur le coup, et d'autre part, ça donne de la crédibilité de passer dans des médias comme, Les Échos, BFM, etc. Quoi.
Ok. Est-ce que tu gagnes ta vie maintenant avec cette activité ?
Depuis un an et demi, effectivement, je me versais un petit salaire qui est incomparable, qui n'est pas comparable à ce que j'avais avant dans mon ancien emploi. Puis là-dessus, avec le choix de ne pas m'être structuré davantage, ce qui est la suite logique quand on lance une marque et qu'on valide, qu'on fait le proof of concept avec un produit qui marche. Se structurer, ça veut dire avoir une petite équipe, soit des associés, soit lever un peu des fonds pour structurer la marque. Ce que j'ai pas fait parce que, comme à côté, j'écrivais, et là c'était les limites du coup de lancer sa marque en faisant autre chose. Je me sentais pas du tout à l'aise pour présenter un business plan, lever un petit peu d'argent et assumer, on va dire, 35 à 40 heures, ce qui est un minimum pour être concurrentiel et faire bien son travail et exister quoi. En se versant un salaire plus intéressant. On va faire le compromis encore. Tu gagnes moins, tu fais tout toi-même. Clairement, t'envoies les cartons, t'appelles tout le monde. Enfin, tu fais tout toi. Même les trucs chiants, tu réponds aux clients, etc. Par contre, t'as moins d'interactions, tu produis moins aussi. Ça m'est arrivé plein de fois. Je disais aux clients, non, en fait, on peut pas produire. Alors, pas avant, c'est pas disponible avant 2 mois.
Après, c'est le jeu de la slow fashion aussi, ça, tu vois. D'un côté, c'est le but, c'est pas que ce soit immédiatement dispo comme chez Zara ou trucs comme ça, quoi.
Oui, alors c'est le but de la slow fashion de faire moins. Après, malgré tout, faut pour avoir un niveau de vie. Alors, soit tu restes. À un moment, on m'a dit, tiens, t'es un peu un espèce d'artisan moderne. Sauf qu'après, si tu veux avoir une petite structure, une taille critique intéressante, perdurer, te verser un salaire, etc. C'est quand même intéressant d'avoir une petite équipe et de produire un peu plus. Moi, en tout cas, j'avais pas les moyens, j'avais pas la ressource temps nécessaire pour le faire. Donc, je me suis dit, ok, tu continues petit, 50, 60, 70 paires par mois. Tu le fais bien, tu le fais toi-même. Et à côté, à midi, tu as terminé de faire ça, l'après-midi, tu écris. J'ai coupé mes journées et que je voyais les choses.
D'accord. Et donc, on en arrive à la lecture, n'importe quoi. À la lecture et à l'écriture. Tu t'es dit, en fait, comment tu t'es lancé dans l'écriture d'un roman? Et ça, c'est brièvement, mais surtout, comment tu t'es décidé entre est-ce que j'auto-édite? Comment tu t'es renseigné? Est-ce que je prends un éditeur? Comment je trouve un éditeur? Parce que ça, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent écrire des livres et qui savent pas du tout par où commencer.
Alors, on pourra en parler longtemps. Donc, déjà l'écriture avant, tu as fait de lapsus, mais c'est beaucoup de lecture. C'est vraiment un amour quelque part de la lecture, curiosité, et puis en parallèle, cette envie au moment de vouloir s'y raconter quelque chose. Quand je me suis lancé concrètement après avoir quitté mon job, enfin, en tout cas, avec cette pression de maintenant tu te lances, donc vas-y écris, t'es face à ta feuille blanche. Là, en fait, ça prend énormément de temps parce que forcément ce que tu vas écrire au début sera absolument pas présentable. Puis de toute manière, quand tu connais un peu la vie, la biographie des gens que t'aimes et qui ont écrit, tu sais que ça a pris des années. Donc moi, je me disais, j'en ai pour quelque part, c'est une envie que tu as toujours et que tu auras toujours, donc c'est quasiment le projet d'une vie. Donc tu te fixes des deadlines, mais bon, il faut quand même se dire que ça prendra énormément de temps et que c'est absolument pas sûr, un, que tu arrives à produire quelque chose d'intéressant, deux, qu'il soit publié, et trois, que ça t'apporte la possibilité d'en vivre même un tout petit peu. Le premier sujet, c'est déjà de parvenir à écrire quelque chose. Une fois que tu as ton manuscrit et que tu t'es dit, c'est un manuscrit qui mérite de l'intérêt, comme disait Bernard Weber, là, qui disait qu'il mérite qu'on abatte des arbres et qu'on dérange les imprimeries pour faire quelque chose qu'on distribue à nos contemporains, à nos semblables, enfin aux lecteurs, quoi. Là, ensuite, le parcours de l'édition et de la diffusion, c'est totalement autre chose. Aujourd'hui, il y a deux grandes choses qui coexistent, c'est l'auto-édition et l'édition classique. Donc dans l'auto-édition, c'est-à-dire que tu auto-édites toi-même ton livre. Tu peux le faire facilement en papier aujourd'hui sur typiquement la plus connue et la plus simple, c'est d'accès. C'est incroyablement simple d'ailleurs. Même beaucoup de gens qui aimeraient s'en passer ne peuvent pas s'en passer. C'est Amazon. Très rapidement, en fait, tu peux télécharger ton fichier, tu peux être lu soit en e-book, voire en livre papier, puisqu'il te l'imprime à la demande. Hein. C'est ce qu'a fait, par exemple, Aurélie Vallone, qui est une auteure aujourd'hui qui est parmi les plus vendues, hein, qui a fait Mémé dans les orties, des choses comme ça. C'est ce qu'a fait, je crois, Agnès Martin-Lugan. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as des top auteurs qui sont passés par l'auto-édition. C'est de plus en plus classique. Et puis, tu as l'édition, et ça leur permet ensuite d'accéder à l'édition classique, auquel tu peux aussi accéder en envoyant ton manuscrit. Mais là, faut toucher beaucoup de bois et croiser tes doigts et voilà, être très, très patient. Et l'édition classique, c'est l'édition que tu trouves en librairie. C'est la grande différence, c'est que tu es diffusé. C'est-à-dire que t'as un livre, bon, déjà, qui est vu et travaillé, édité par une équipe de professionnels et qui est derrière et diffusé en librairie. Et le nerf de la guerre, c'est cette diffusion, c'est-à-dire que t'es présent chez les libraires, peut-être sur l'étape des librairies. Donc ça change totalement de quand tu mets ton livre toi-même sur Amazon dans ton coin ou tu le mets sur Internet. Donc voilà, moi j'ai eu un parcours.
D'accord.
J'ai eu un parcours très intermédiaire, on va dire, parce que j'ai écrit pas mal de choses, mais qui étaient pas pour lesquelles j'étais pas totalement convaincu. Donc j'ai quand même envoyé à des éditeurs, mais j'ai pas eu de retour, on va dire, probant. J'ai eu des mini retours, mais en tout cas pas de contrat d'édition. T'envoies ton manuscrit, et quand j'ai écrit Éloge du cygne, je l'ai écrit quand l'atelier Willow était à l'arrêt, donc en avril 2020.
Okay.
Et c'est difficile à résumer, on va dire, c'est une histoire d'amour, c'est le début d'une histoire d'amour qui se passe donc en 2020. Et à travers cette histoire d'amour, voilà, on voit un peu notre société. Ça parle aussi un peu d'écologie, d'entrepreneuriat, de plein de choses. Donc j'écris ça parle vraiment de ce qui se passe aussi en avril 2020. Indirectement, le narrateur se met à raconter donc son amour pour cette héroïne qui est une jeune médecin et en même temps se met à raconter ce qui se passe. Et donc quand j'ai fini ça, en fait, le texte me tenait vraiment à cœur. J'étais vraiment content de la manière dont les choses étaient sorties et j'avais spontanément vraiment envie de le partager. Donc je l'ai mis en ligne d'abord via Amazon parce que c'était vraiment le plus simple et que mes proches amis pouvaient le lire. Vous voyez que les gens étaient vraiment enthousiastes et à l'époque, de toute manière, moi j'ai déjà été beaucoup attendu quand j'envoyais à des maisons d'édition. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'attendre 6 mois, 1 an, j'ai plutôt envie de le partager, ce texte. Et j'ai trouvé cette plateforme qui s'appelle toujours Mon Best-Seller, qui est une plateforme, monbestseller.com, qui est une plateforme en fait qui réunit plein de lecteurs, une communauté de lecteurs, une communauté d'auteurs qui déposent en fait leur manuscrit, qui peut être ensuite lu gratuitement et qui est commenté, évalué, etc. par un certain nombre de personnes. Pour le coup, voilà, c'est pas ta maman ou un ami, donc c'est plus objectif quand même. En été, je le dépose sur cette plateforme là, passe absolument rien pendant quelques semaines et puis petit à petit, en fait, il monte dans les classements, enfin il y a un système de classement de notation, il est livre de la semaine, livre du mois, et puis il est dans les 10 manuscrits de l'année sélectionnés et montrés à des éditeurs de la plateforme. Donc ouais, incroyable et vraiment super incroyable. Bien, parce que même si en fait tu vas pas jusqu'à l'édition, c'est à partir de ce moment là où j'ai mis un manuscrit sur cette plateforme là que j'ai vu le plaisir qu'on peut avoir en fait à échanger et avoir des retours de lecteurs qui lisaient voilà un texte, parce que quand t'écris t'es tellement seul tout le temps face à toi-même. Cette étape fait énormément peur de montrer ce que tu rentres dans l'intimité, hein. Si tu fais le test ou les gens qui écoutent font le test de se mettre face à une feuille blanche et d'être honnête avec soi-même et d'aller directement au cœur de ce qu'on pense, des sentiments, c'est très dur, ça met énormément de barrières. Donc quand tu fais ça, que tu le mets en ligne comme ça, à des inconnus, à tout le monde, t'as peur, et en même temps, ça désacralise le truc, parce que toi, quand tu lis, en fait, t'es aussi très content de voir qu'il y a des gens aussi, soit aussi fous, soit avec les mêmes, je sais pas, rêves inavoués, les mêmes pensées que toi, et donc tu rentres dans un équilibre qui est vraiment sympa, qui est constructif, qui est intéressant. Donc déjà, je me disais, c'est vraiment super cette plateforme qui en plus est l'accès de mettre son manuscrit, ouais, et de commenter, les fonctions de base sont gratuites. Donc c'est quand même une chance d'avoir ça dans le paysage français. Je connaissais pas et je me suis dit c'est dommage. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ça, et donc après voilà, la chance a fait que effectivement le manuscrit plaise à un éditeur, qu'on signe un contrat fin d'année 2020 et là ce début d'année, et que le livre arrive dans les librairies là dans 2 jours, donc le 7 mai.
Quelle belle histoire, franchement. Et j'imagine qu'elle ne s'arrête pas là, parce que du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets ?
T'as besoin de voir le concret déjà, de valider ça. Clairement, aujourd'hui, je continue à écrire et je continue Willow. Ce qui déterminera la suite de l'aventure et les dimensions que je donnerai, le temps que je donnerai à Willow et ou à l'écriture, en fait, ça va aussi dépendre de ce qui se passe cette année, de la réception de ce premier livre. Où je te parle, j'en suis vraiment à ce moment où okay. Il vaut mieux encore attendre quelques mois avant de te décider dans quelle direction tu vas.
Carrément. Déjà, apprécier le fruit de ton travail, ça va faire du bien de se poser, de se dire « Ok, c'est bon, ça, c'est fait. »
Voilà, déjà apprécier...
Le succès.
Voilà, on peut dire... Alors, c'est marrant parce que du coup, je me suis dit « Ah ouais, bon, là, ça va pas être en librairie. » Et clairement, en fait, quand tu écris, tu penses à ça. Pas tout le temps, mais en tout cas, là, quand j'écrivais ce roman, je l'écrivais pour être lu. Et donc, la librairie... L'éditeur, c'est le Graal. Mais en tout cas, j'ai constaté, après avoir signé le contrat et qu'aujourd'hui il apparaisse, que mon grand plaisir restait quand même le fait d'écrire.
Ouais.
Alors, résultat, c'est une énorme satisfaction et je pense que ça motive pendant le chemin. Enfin, les deux sont importants. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'énorme bonheur, c'est de me dire que, OK, c'est écrit et il y a une forme de reconnaissance par ses amis ou d'autres personnes parce que tu as le tampon édition. Donc, ça fait plus partie de ton identité, comme c'est un truc que tu portes depuis longtemps. T'es beaucoup plus légitime de dire et moins tremblant de dire aux autres voilà, j'ai écrit à côté, je suis pas juste flou. Et d'avoir en fait un temps, c'est plus acceptable de dire voilà, j'ai écrit et tes amis, les gens que tu vas pas voir, parce que quand tu commences, tu fais énormément, donc je disais pas de sacrifice, mais de compromis parce que tu peux pas tout faire, hein. Tu peux pas travailler, gagner un petit salaire, même un petit salaire, et en même temps avoir du temps pour écrire. Et voir tes amis, donc tu fais des sacrifices. Moi, clairement, j'ai fait le sacrifice social, le compromis social, on va dire, pendant un long moment. Mais là, en fait, voilà, c'est... t'as ce plaisir-là de dire, bah voilà, j'ai écrit quelque chose, j'écris, ça fait partie de mon identité, c'est comme ça, et voilà. Derrière, le plaisir de pouvoir partager ton texte à des personnes, et des personnes que tu connais pas forcément grâce à l'édition de la librairie, ce sera un autre plaisir. Mais qu'aujourd'hui, pour être sincère, j'ai vraiment du mal à matérialiser...
D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage et qui prouve qu'en fait, le CDI, c'est une chose, c'est cool, il y a plein d'avantages, mais il faut aussi passer à l'action si tu veux, je sais pas, si t'es entrepreneur et que t'as vraiment envie dans l'âme de faire quelque chose, malheureusement, il y a que passer à l'action qui peut te permettre de le faire et de voir comment ça marche en fait, parce que si, imagine, Willow n'avait pas marché, ni ton livre, au final, tu serais retourné dans le salariat, j'imagine, ou t'aurais essayé d'autres choses?
Ouais, je sais pas dire, clairement, à un moment, t'es obligé de manger, quoi, donc, de payer tes factures. Donc, à un moment, oui, faut bosser, donc, soit du freelance, du salariat. J'ai beaucoup aimé être salarié d'un grand groupe. J'ai beaucoup aimé être entrepreneur et écrire. Clairement, c'était plus dur d'être seul face à toi-même, donc, d'entreprendre et d'écrire, parce qu'en fait, t'es seul, t'es pas porté par d'autres personnes. Mais je trouve que, voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients différents, donc, c'est vraiment un choix qui doit dépendre d'un moment, d'une envie personnelle. Et c'est bien, en fait, dans la société d'avoir les deux options et les deux de statut, entre guillemets, qui se complètent et qui sont là.
Carrément. Eh ben, écoute, c'est une super bonne conclusion, je trouve. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours. J'espère que tu n'auras plus de livres en vente le 7, puisqu'ils vont tous partir et s'envoler au plus vite. J'espère vraiment que ça va être un vrai succès. Bon, c'en est déjà un, mais que ce soit encore un plus gros succès. Et puis, voilà. Et puis, écoute, on se tient au courant pour les updates de tes projets.
Merci beaucoup, Laura. Et puis, à très bientôt.
À bientôt.